Neptune FM et les productions du Café de la Mogette présentent Un cheveu sur la langue, un...
Poids dans la main, payé à rien foutre, vous gardez la poutre dans l'œil du voisin.
Bonjour. Comment allez-vous, ce joueur? Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Jean-Yves.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bonjour Yves, bien sûr.
Oh, bah alors, c'est pas beau ça, hein?
Ah bah c'est beau.
Ah, on sent que c'est...
Une belle entrée en matière.
Oui.
On sent le métier.
Bah oui, et en plus, une entrée en matière pour une émission un peu spéciale.
Ah.
Oui, parce que tu sais que normalement on est en deux volets.
Oui.
Là, j'ai envie de faire un volet roulant, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va mélanger à la fois le thème...
Oui.
Et ceux qui chantent.
Bon, bah hein? Écoute,
alors,
on va bien voir. Hein.
Je t'en dis un peu plus, mais d'abord, avant la première chanson.
Oui.
Alors, le groupe, il s'agit de Lénine Renault. C'est un petit jeu de mots avec Lénine Renault, tu vois, Renault. C'est un groupe qui a déjà fait plusieurs CD, et il vient de sortir, il n'y a pas longtemps, un CD qui s'appelle Le Petit Musée de Lénine Renault. Et c'est rare, mais là, j'ai trouvé vraiment bon du début à la fin.
Ah oui.
Alors, je me suis perdu.
Des chansons originales et qu'on ne connaît pas.
Ah, absolument.
Comme l'habitude de l'émission.
Oui, c'est un peu ça. On n'est pas connu comme groupe, mais là, c'est vraiment un truc, un concept assez sympathique. Tout le disque, c'est des chansons qui parlent de tableaux ou de peintres.
Ah oui.
Donc, on visite un petit musée, leur petit musée à eux, le musée de Lénine Renault.
Eh bien, c'est pas désagréable.
Alors, je me suis permis de faire une émission spéciale pour qu'on aille, nous aussi, visiter ce petit musée.
Ah, bah, très bonne idée.
Et la meilleure façon de commencer à visiter,
oui.
C'est d'aller voir une première toile ou une première
peinture.
C'est
gratuit à l'entrée.
Il suffit d'avoir le CD, après c'est gratuit, tu veux dire quand tu veux,
ah, oui,
bien
d'accord.
Sûr. Hein. C'est pas un musée audiovisuel, c'est un musée audio,
oui.
Où on va vous parler visuellement des peintures, en quelque sorte. Enfin, bon, on y va, on part avec la première peinture.
C'est très compliqué, oui.
En ce temps-là, nous allions à la pêche au blou-blouillon, à la chasse au gros, car nous n'avions pas les mots. Mais nous savions de nos mains pallier ce manque incertain, sans pinceau et sans lanterne, en peignant dans nos cavernes. Nous peignons d'après nature, la main à droite et l'œil sûr, notre mémoire nous guidait, on n'avait pas de chevalet. On a trouvé des pigments qui durent bien 40 000 ans, inventé l'aérographe, le pochoir, un sacré taf. Nous les Cro-Magnons, les Néandertals et consorts, nous ne prétendions pas survivre à notre mort. Les psychotropes ont permis, grâce à des plantes bien choisies, de réaliser les fresques sur tous nos supports rupestres. On nous traita de mystiques, d'intello, de symbolique, quand on vit à Bornéo, des hommes à corps d'animaux. Influait sur le décor, car c'est dans certaines pièces qu'on célébrait de grandes messes. 45 000 ans plus tard, on voit, tiens, comme c'est bizarre, les couleurs psychédéliques des vitraux d'une basilique. Nous les Cro-Magnons, les Néandertals et consorts, nous ne prétendions pas survivre à notre mort. Nous les aïeux grognants, nous les simples d'esprit, vous les artistes pédants, on vous a tout appris. On vous a tout appris. On vous a tout donné.
Ça s'appelle Rupestre. Donc, bien sûr, c'est Lénine Renault, parce que toutes les chansons seront de Lénine Renault. C'est un groupe qui s'est formé en 2010 et qui a déjà sorti 3 albums.
Ah oui.
Et donc, le dernier, Le Petit Musée de Lénine Renault, La première chanson, c'était rupestre. Alors, les peintures rupestres, hein, tu sais ce que c'est, hein, c'est l'ensemble des œuvres d'art au sens large.
Oui, s'il y en a eu, on en a trouvé.
Ouais, qui sont dans, ça peut être des gravures, des sculptures, des machins, tout ça, dans les grottes et ailleurs. Et ces peintures, c'était donc l'art pariétal, hein, qui était mis sur les parois. Ouais, voilà. Et sais-tu où on a découvert pour la première fois des peintures rupestres?
Eh ben non.
Mais c'est à la grotte Chauvet.
Ah oui, Chauvet.
En France, bien sûr, voilà.
Avant, ah, il y en a eu plusieurs, il n'y a pas eu que Chauvet.
Ah non, mais il y en a eu plusieurs après, mais il y a eu... Donc a eu les premières, c'est celle-là.
Mais Chauvet, c'est relativement récent, quand même.
C'est à la guerre, mais c'est celles qui sont les plus anciennes.
Les ah oui. Voilà.
Elles datent de 30 000 ans.
Ah oui, quand même.
Les plus anciennes, on les a découvertes dans la grotte Chauvet.
Mais alors, c'était une manière, je crois, pour eux de s'exprimer un petit peu, parce qu'il n'y avait pas de stylo à billes, il n'y avait pas d'ordinateur.
Non.
Sans doute un petit peu. Mmh. Alors, ils s'exprimaient en dessinant la vie des hommes à ce moment-là. Alors, ça avait évidemment quelques inconvénients, mais quelques avantages aussi. Il n'avait pas de facture d'électricité, pas de facture de gaz. Surtout actuellement, ça prend toute sa valeur.
Eh oui. De nuit, donc c'est une peinture de Rembrandt. Oui. La Ronde de nuit, il y a un Rembrandt, c'est un peintre flamand qui est grand inventeur du clair-obscur.
Bien sûr, oui, entre... D'ailleurs, là, ça s'appelle la Ronde de nuit, et c'est vrai que c'est un petit peu sombre, enfin, c'est normal pour un tableau qui s'appelle la Ronde de nuit, bien sûr. Les critiques disent que c'est une troupe de bras cassés qui joue aux soldats. C'est une milice de paquetilles, dit-il. Et certains détails font penser que les soldats ne savaient même pas manier les armes.
Ouais, comme quoi. Bah oui, c'était des milices qui faisaient des rondes de nuit.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Le parfum, les couleurs et le vent léger dans la prairie en fleurs remue mon chevalet. Le soleil, la lumière me laisseront-ils le temps de saisir l'atmosphère et fixer cet instant? Le bruit, les odeurs de Paris semblent soudain si loin quand on passe la journée au bord de l'eau. Désormais le chemin de fer nous permet de changer d'air, de goûter au plaisir d'une vie insouciante. Ça m'amuse, mais crois-moi, je n'ai Dieu que pour toi. Toi, ma belle, mon modèle, jolie femme sous ombrelle, la mère du petit moi qui s'agite derrière toi. Le bruit, les odeurs de Paris semblent soudain si loin quand on passe la journée au bord de l'eau. Désormais le chemin de fer nous permet de changer d'air, de goûter au plaisir d'une vie insouciante. Les reflets se répondent dans le ciel changeant, mes pinceaux le confondent avec ta robe par moment. La peinture éclabousse gaiement le tableau, et par touches souples et douces, on te devine bientôt. Le bruit, les odeurs de Paris semblent soudain si loin quand on passe la journée au bord de l'eau. Désormais le chemin de fer nous permet de changer d'air, de goûter au plaisir d'une vie insouciante, de goûter au plaisir d'une vie insouciante, d'une vie insouciante et souriante.
La femme à l'ombrelle, c'est d'après un tableau de Claude Monet,
oui.
Qui est né en 1840, je crois, c'est ça, oui.
Claude Monet, c'est quand même, je ne sais pas moi, un peintre qui, pour moi, personnellement, a le plus de sensibilité. Celui qui me le fait personnellement le plus vibrer, ben, c'est lui qui a inventé l'impressionnisme.
Mm-hmm.
Et par son premier tableau, là, qui s'appelait
Impression soleil levant.
Et ça a donné le nom à impressionniste.
Ouais.
Mais moi, j'aime beaucoup, j'ai visité son jardin à Giverny et tout. C'est magnifique, moi. C'est un peintre qui m'émeut beaucoup, personnellement.
Ah, mais il y a de quoi être ému, c'est vrai. Hein, quand on
oui.
voit tout ce qu'il a fait comme jolie toile, c'est vrai que c'est agréable, en plus, à regarder.
Ouais. Et alors, ce qui est affolant, c'est que il avait au début beaucoup de mal à vivre de sa peinture.
Oui.
Il était soutenu par la galerie Durand-Ruel, qui
oui.
existe toujours, je crois. Et quand on pense que maintenant, un tableau de Monet vont entre 8000 et 63 000 euros, ça laisse un peu rêveur, quoi.
Oui.
Alors que ce pauvre gars, il avait du mal à vivre de sa peinture.
Ouais, puis maintenant, c'est pas lui qui va en profiter, rendu où il est rendu.
Ah, certainement pas.
C'est lorsque Gustave a vu la photo de Camille nue qui dépassait du manteau, que que notre faiseur de chair dit de son coup d'œil expert, je vais vous en faire un tableau. Oubliant les conventions, la divine proportion, il allait tout bousculer. Et ce vilain briseur d'anges qui voulait que les temps changent dessina le monde tel qu'il est. Gustave a certainement lu, soutenu et défendu l'origine des espèces. Cette théorie de l'évolution qui questionne la création et agresse les gens de messe. Peindre une vulve vendre au blanc, c'est vulgaire et inconvenant, il faut être dérangé. Pour afficher sans détour cette vie obscène de l'amour, par ce nu, tout décapité. Pourquoi les esthètes, qui n'ont pas l'air si bêtes, se taillent et se carapatent,
se taillent et se carapatent
à la vue. Derrière un petit rideau, puis sous un joli panneau, j'ai longtemps été caché. Lors de petites cérémonies, toujours en bonne compagnie, j'étais alors dévoilé. Et 129 ans plus tard, c'est dans une ancienne gare que la foule pose ses yeux sur moi. Qu'elle me reluque en amateur ou sous des airs réprobateurs, je demeure un sujet d'émoi. Pourquoi les esthètes qui n'ont pas l'air si bêtes se taillent et se carapatent? De la morale à chaque époque et de tout poil adore crier au scandale, parler de lait, de décadents, moquant, caricaturant les prétendus imposteurs. Aujourd'hui via internet il n'y a plus rien d'obsolète, la censure est toujours prospère. À l'heure où les films porno inondent les réseaux sociaux, on confond l'art et le vulgaire. Pourquoi les esthètes qui n'ont pas l'air si bêtes se taillent et se carapatent? Pourquoi les esthètes qui n'ont pas l'air si bêtes se taillent et se carapatent?
Se taillent et se carapatent
à la vue d'une heure.
On continue notre petite visite dans le petit musée de Lénine Renault, hein, ce groupe
oui,
qu'on entend depuis.
Vous amène chez qui maintenant?
Je vous ai emmené chez Gustave Courbet, voilà. Puisqu'on vient de parler de l'origine du monde, ce tableau qui fait scandale, qui montre une.
L'intimité d'une jeune femme.
D'une dame.
On va dire ça comme
et
ça.
À l'époque, oh là là, et ce tableau était longtemps caché, hein, mais maintenant, ça y est, on le voit, et c'est vrai que c'est un super tableau.
On dit que l'origine du monde a très vite étonné et provoqué une répulsion de la part du public, tout en demeurant quand même d'une qualité, il faut bien le reconnaître, tout à fait exceptionnelle. Alors, il y a quelqu'un qui disait « Le nu en peinture est aussi nauséeux et assommant que l'adultère en littérature. »
Oui. Et pour savoir ça, il avait dû lire beaucoup de livres d'adultère et de voir beaucoup de nus pour pouvoir le dire.
C'est fort possible.
Oh, l'hypocrite.
Oui.
«
petite ville du Midwest, un bar éclaire la nuit dehors. Il y fait d'ailleurs aussi froid. Seul un radiateur tout au fond réchauffe un peu les bas nylons de la cliente au chapeau jaune. Le type accoudé au comptoir se dit qu'elle fait bien peine à voir. Elle a l'air si désemparée, seule assise devant son café. Il aimerait bien l'aborder, lui dire un mot, la consoler, prendre sa main et pourquoi pas la serrer dans ses bras.
Dans un petit bar du Midwest, chacun s'invente son histoire qu'il se raconte en solitaire. Seul un radiateur tout au fond pourrait parler des bas nylons de la cliente au chapeau jaune. Un deuxième gars arrive au bar, le pied peu sûr et l'œil hagard. Agrippe quand même un tabouret, se pose le cul, prend un bélé. Il se retourne, voit la pétasse au chapeau jaune devant sa tasse. Elle aurait plus fringué mieux que ça pour tapiner dans cet endroit.
Un troisième homme ouvre la porte, plutôt beau gosse et propre sur lui. S'assied à table et fait en sorte qu'elle se trouve juste en face de lui.
Ce soir je ne rentrerai pas seul, pense-t-il au détour d'un regard. Il les connaît, celles qui en veulent, s'enorgueillit de le savoir.
Et donc elle se lève avec grâce, un petit sourire mais sans plus.
Lui dit c'est gentil, mais hélas, j'attendais juste que vienne le bus.
La femme au chapeau jaune, Edouard Hooper, hein, c'est le titre du... Enfin, c'est pas Edouard Hooper qui chante, forcément, c'est celui qui a peint,
ce tableau-là.
C'est une dame qui est dans un café, qui attend, et donc chacun y va de sa petite supposition, hein, n'est-ce pas ? Il est plus ou moins graveleuse, d'ailleurs, en plus.
Oui.
Et les tableaux d'Edouard Hooper, pour moi, ça fait penser à de l'hyper-réalisme, enfin, un petit peu avant. On n'en est pas loin, tu vois. Et c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup ces tableaux. Il y a de la solitude dedans, mais à la fois, c'est vraiment poignant et émouvant, ces tableaux.
C'est un peintre new-yorkais, d'ailleurs, qui est considéré aux États-Unis comme le représentant du réalisme américain.
Ouais.
Alors, il peignait surtout la vie quotidienne des classes moyennes.
Ouais,
c'est un peintre qui est assez francophile, d'ailleurs, qu'il est venu parfaire son art en France. Et c'est beaucoup inspiré de notre culture.
Ah, ben alors tu vois comme quoi. Hein, ouais. Pour une fois que... Hein.
Toulouse n'a pas les yeux dans sa poche, mais il s'en fout bien parce qu'il est moche. Toulouse n'a que faire des prises de bec, car enfin c'est... Toulouse n'a pas besoin d'aréopage, il aime bien faire caca sur la plage. Il séduit les femmes avec des bons becs, car enfin c'est...
Toulouse-Lautrec.
Et bien sûr, au Moulin Rouge, comme dans tous les autres bouges, il croque toutes les nénettes sur sa palette. Et d'un geste de la main, d'un seul trait vient Valentin, et tout le monde bave sur le cul de la goulue. Toulouse affûte ses poils de martre, car c'est bien lui, le roi de Montmartre. Il ressort des maisons closes à sec, car enfin c'est...
Et nous nous en dringue.
Yvette Guilbert et Aristide Bruand le font sortir des bordels en chantant. Les yeux bouffis, la tête comme une pastèque, mais enfin c'est
Toulouse-Lautrec.
Et bien sûr, au Moulin Rouge, comme dans tous les autres bouges, il croque toutes les nénettes sur sa palette. Et d'un geste de la main, d'un seul trait vient Valentin, et tout le monde bave sur le cul de la goulue. Les amis, Nadar et Monet, et de Van Gogh il a fait le portrait. Mais ses copains sont pas toujours des mecs, car enfin c'est
tout le monde en trinque.
On meurt souvent par où on a pêché, et la syphilis l'a emporté. On peut faire sans, mais il a fait avec. Enfin c'était
tout le monde en trinque.
Et bien sûr, au Moulin Rouge, comme dans tous les autres bouges, il croque toutes les nénettes sur sa palette. Et d'un geste de la main, d'un seul trait vient Valentin, et tout le monde bave sur le cul de la goulue, de la goulue, de la goulue.
Toulouse-Lautrec, c'est toujours donc Lénine Renault, le groupe. Ce groupe, il est venu d'horizons différentes. Hein. Par exemple, il y a Marcel et son orchestre pour Franck, les VRP pour Cyril, ils sont 6. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils existent, et ils tournent bien, hein, y a pas de problème.
Ils tournent bien, mais ils sont... Pas très connu,
on ne les connaît
pas spécialement,
ouais.
Mais c'est souvent c'est comme ça, les gens ne sont pas très connus, mais finalement ils ont toujours du boulot.
Ah oui, bon. Mais ils habitent dans le nord de la France.
Alors on va parler un peu de Toulouse-Lautrec.
Bah oui, oui.
Alors on ne peut pas parler de Toulouse-Lautrec sans parler du Moulin Rouge.
Ah ben non, et, de la goulue.
Et du French Cancan, etc., etc. Le French Cancan qui a aidé... Pendant un moment interdit, parce qu'on trouvait ça très indécent.
Ben oui, c'est quand même.
Incroyable. Enfin, bon, qu'est-ce que je te dis ? Alors, c'est un peu la fin aussi des danses de salon qu'on faisait, où tous les pas étaient codifiés.
Ben oui.
Il y avait un maître de danse, il fallait faire ça au millimètre près. Ça devait être ennuyeux comme tout.
Mm-hmm.
Alors là, ben là, on a dansé un petit peu comme on voulait. Et je te dis, ils ont trouvé ça indécent. Moi, je trouve pas... Il n'y a pas tellement de problème.
Bah, y a même, maintenant, il n'y a pas de problème parce que le French Cancan, on vient de tous les coins du monde pour voir le French Cancan à Paris maintenant.
Absolument, oui. Si tu veux, ce peintre-là, Toulouse-Lautrec, il a eu la chance d'être reconnu de son vivant et de bien vivre de sa peinture.
Ah oui, oui.
C'est en juin 1816 que la France met les voiles en corvette, brique et frégate, en route pour le Sénégal. Il est question d'établir une colonie à Saint-Louis. C'est naïf, ils ignorent naviguer vers l'infini.
Le capitaine bourgeois, royaliste incapable, va précipiter la Méduse sur un banc de sable. Les pauvres âmes jetées sur un radeau improvisé s'entretuent et se dévorent. Ne reste que 15 rescapés.
Oh, mais que fait cet homme au-dessus de la mêlée? Oh, mais il est bien noir et j'en suis tout mélusé.
Jéricho se jette à l'eau et sur ses pinceaux, son tableau est immense, peut-être même un peu trop. Cet amoncellement de corps et de désespoir déchaîne la critique sur ce qu'on ne veut pas voir.
L'Académie jugera cette toile immorale, ni figure principale, ni fierté royale, une existence donnée aux parias, aux exclus, une mosaïque humaine teintée.
Cet homme au-dessus de la mêlée. Oh, mais il est bien noir et j'en suis tout médusé.
pas bien, mais ce coquin de Jéricho est abolitionniste, mais pour ce temps c'est un peu tôt. En peignant sur sa toile des marins à peau brunie, il soutient ouvertement l'indépendance d'Haïti.
Aujourd'hui, pour nos yeux, cette œuvre fait écho à des drames touchant nos camarades afros, perdus sur des esquifs et remplis d'idéaux, esclaves ingénus des puissants d'en haut.
Oh, mais que fait cet homme au-dessus de la mêlée? Oh, mais il est bien noir et j'en suis tout méprisé. Que fait cet homme au-dessus de la mêlée?
Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, toujours chanté par Lénine Renaud, qui nous apprend d'ailleurs dans ce tableau. Moi, j'ai appris en écoutant cette chanson que c'était il y avait des messages dans cette peinture, en fin de compte. Notamment, l'homme qui est le plus élevé sur le radeau de la Méduse, qui est un homme de couleur. Et c'est justement Géricault qui était abolitionniste de l'esclavage. Napoléon qui avait rétabli l'esclavage. Il disait non, faut arrêter ça, justement. Et c'est un tableau pour faire méditer les gens sur cette atrocité de l'esclavage.
Oui, Théodore Géricault s'était inspiré un petit peu d'une histoire, d'un véritable naufrage,
oui.
Celui de la frégate la Méduse, bien sûr, qui s'est échoué d'ailleurs au large de l'actuelle Mauritanie.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'un capitaine prétentieux qui connaissait rien n'a pas voulu regarder les cartes. Il a fait comme bon lui semblait et il s'est lamentablement scragé avec beaucoup de personnes quand même.
Et ce n'est pas sans rappeler quelques sujets d'actualité quand
même. Oui, ça arrive encore.
Je crois, oui. Très souvent, malheureusement.
Ça, quand des incompétents gouvernent après, ça serait un bateau ou autre chose.
La nuit d'avant le jour de mon tout premier bal, j'avais peur qu'à la cour, on me trouve banal. Et qu'aucun prétendant ne traverse la salle pour m'en faire le tour sur un rythme infernal.
J'avais alors pour moi le titre de princesse, parure, robe de soie, l'éclat de la jeunesse. Le manque d'assurance, mes petites maladresses, disparurent tant de moi, j'ai régné sans faiblesse. Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. Est-ce qu'on tend un miroir à une désespérée? Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. On ne dit pas qu'étale à une fleur fanée.
Pour me faire comprendre, il suffisait d'un regard. Et alors, sans attendre, on dépêchait Dardard. Le meilleur couturier, les parfums les plus rares, poète pour matin tendre et coquin pour le soir.
Que la vie est tragique, il me reste aujourd'hui ma vieille domestique pour seule compagnie. Et si tout nous sépare, la fin nous réunit. Comique est la morale, je subis son mépris.
Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte.
est-ce qu'on tend un miroir à une désespérée? Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. On ne dit pas qu'étale à une fleur fanée.
Voici mon dernier bal. J'ai caché comme j'ai pu cette déchéance fatale. Les artifices n'ont fait que ralentir le mal. Et tous les égards dus à mon rang sont bien pâles.
Y a-t-il une clinique de chirurgie plastique pour me redessiner cette toile horrifique? Chronos attend son dû et j'ai les yeux rougis, car c'est peine perdue, la partie est finie.
Y'a qu'une âme morte pour agir de la sorte. Est-ce qu'on tend un miroir à une désespérée? Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. On ne lit pas qu'étale à une fleur fanée. Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. Est-ce qu'on tend un miroir à une désespérée? Il n'y a qu'une âme morte pour agir de la sorte. On ne lit pas qu'étale à une fleur fanée.
Les vieilles, Goya, c'est Goya, c'est un peintre espagnol qui a vécu pendant le moment où l'Espagne était envahie par la France, par un certain Napoléon. C'est lui qui a peint des tableaux assez réaliste sur ce qui se passait Espagne. Parce que Napoléon n'a pas fait que du joli, joli, joli. Il a fait fusiller des femmes, des enfants.
Je ne voudrais pas dire du mal parce qu'il est vénéré, insensé.
Oui, bien sûr.
Mais si je voulais m'exprimer, ce n'est pas tellement ma tasse de thé.
Moi non plus.
Je n'aime pas les gens qui font la guerre. Je n'aime pas la guerre, voilà.
Non.
C'est surtout ça. J'ai découvert d'ailleurs, au cours de mes voyages, un petit musée à Castres, qui s'appelle le musée Goya, tout simplement, qui est consacré surtout d'ailleurs aux peintres espagnols, mais dans lequel, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de Goya.
Oui.
Et c'est très sympathique d'avoir ce petit musée à Castres. C'est pas très connu.
Tout autour de moi gisent des plumes et du sang. Paré d'un camail blanc, en face il m'attend.
Je suis à genoux perché au poulailler. Flamand paysan, aujourd'hui ouvrier. Salaire de misère pour nourrir 5 enfants. Pariant 6 combats, j'espère gagner 1 franc.
Dans le galodrome, cris et colibés résonnent.
D'un coup je déploie mes ailes et je fends l'air sur un adversaire qui soudain se tend, se dresse sur ses ergots sans à la Malek. Soit tombé sur un bec.
Enfin les galinacées s'écharpillent devant la foule amassée qui frétille.
respect est assez présent. À part bien sûr les femmes et puis les enfants. Ici dans le galodrome, crise et colibés résonnent. Les chapeaux bourgeois, les casquettes des faubourgs. Paris est sans flamme pour ses bêtes à concours. Serait mise en bière.
Au-dessus la mine à dos chante un couplet d'une victoire qui semble se dessiner. Il me reste à regagner mes pénates. Ce soir je serai comme un coq en pâte.
Ici dans le galodrome, crise et colibés résonnent. Les chapeaux bourgeois, les casquettes des faubourgs. Paris est sans flamme pour ses bêtes à concours. Ici dans le galodrome, crise et colibés résonnent. Groupés mélangés, ils viennent tenter leur chance en pariant dans cette Manchester de France. En pariant dans cette Manchester de France. En pariant dans cette Manchester de France.
Le combat de coq, Rémy Coge. C'est un monsieur qui a vécu à Roubaix. Hein. Et donc, dans ce tableau, c'est vraiment la chanson. Dépeint ce tableau, en quelque sorte. On voit des coqs qui se combattent, les gens qui sont là, puis bien sûr, tous ces gens qui regardent le combat ont aussi parié alors, sur leur combattant, bien sûr, c'est ça.
C'est un jeu d'argent, un petit peu.
Ouais.
Le combat de coq, maintenant, c'est totalement interdit à cause de la souffrance des animaux, bien sûr.
Bah oui, bien sûr.
Mais il reste encore en usage dans certains pays d'Asie et d'Amérique centrale. Ça se fait encore. C'est un petit peu dommage que les pauvres bêtes, c'est vrai qu'elles souffrent énormément.
D'abord tout môme, faut comme trois pommes, y'a ton papa qui s'évapore, vous laissant seul à votre sort. Mère divorce et frère interné, la vie te trame à l'eau de drame, la honte laisse un arrière-goût, tu pousses avec des bleus à l'âme.
Scolarité, courte et chétive, santé frileuse et ascétique, te laisse peu de perspectives pour les carrières académiques. Heureusement les encouragements de personnages bienveillants vont te faire croire à tes audaces.
Gaston, tu n'es pas fou, ton regard est tendre et doux. T'as des dons, tu n'es pas fou, tu n'es pas plus fou que nous.
Et dans le monde, tu t'intéresses à ceux qui manquent pas de maladresse et qui traversent leur vie bancale sans espérer un piédestal dans tes expos, pour tes tableaux. Si tu fais fi des moqueries, ça te désole d'être incompris.
Tu obéis aux épluchures, tu peins des bonhommes sur les murs dans les latrines de l'école publique, boudées de la Vendée catholique qui te prenaient pour un sorcier. Elles sont désormais quel pied de nez, classées monuments historiques.
Gaston, tu n'es pas fou, ton regard est tendre et doux. T'as des dons, tu n'es pas fou, tu n'es pas plus fou que nous.
Ton tes totems, contes et poèmes, tes objets de rebut repeints, ta riche et folle correspondance n'avait titillé l'intérêt que d'une poignée d'éclairés qui s'amusaient s'enthousiasmer de ta tenace indépendance.
Es-tu ému? Trouves-tu comique? Es-tu encore mélancolique que ta modernité rustique soit devenue cause de cohue et que le monde du farfelu enchante maintenant les gamins et les cueilleuses d'herbes à lapin? Gaston, tu n'es pas fou, ton regard est tendre et doux. T'as des dons, tu n'es pas fou, tu n'es pas plus fou que nous. Oh Gaston, tu n'es pas fou, ton regard est tendre et doux. T'as des dons, tu n'es pas fou, tu n'es pas plus fou que nous.
Lénine Renault, qui parle donc de Gaston Chessac. Je t'ai dit de temps en temps dans le disque qu'il y avait des chansons qui parlaient d'un peintre, ou d'une peintre d'ailleurs, on verra ça plus tard. Et là, c'est Gaston Chessac, Lénine Renault, ce groupe qui a sorti 3 CD, qui habite dans le nord de la France. Et puis, en plus, c'est vraiment ce... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais jusqu'ici, mais vraiment, il est très chouette, ce CD, quoi.
Oui, c'est un petit peu... Comment je dirais, un petit peu angoissant comme peinture, mais enfin...
Ah, les peintures, mais les chansons sont sympas, elles.
Ah oui, oui, mais ça, c'est autre chose, oui. Ah, oui.
Alors, Gaston Chessac, dites-nous tout sur ce Gaston Chessac.
Eh bien, il était né à Avallon, dans l'Yonne, et il est mort, pour tout dire, à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'il est venu en Vendée? Parce qu'il a épousé une fille qui était institutrice et qui a été mutée à La Roche-sur-Yon, je crois. Non, exactement, à Boulogne, en Vendée.
Ah, d'accord.
Alors le couple s'y installe et puis ils sont restés là et il était comme ça un peu débarrassé, étonné que sa femme ne gagnait pas trop mal sa vie. Il était débarrassé des soucis pécuniaires de la vie.
Oui. Bah. Il faut dire que tout ça se passait au XXe siècle, au début du XXe siècle, oui, qu'il est né en 1910 et qu'il est décédé en 1964 à La Roche-sur-Yon.
Il a même à l'époque participé au salon des indépendants bien sûr. Ouais.
Magie noire, sorcellerie, quelle faute irréparable au commissaire misérable.
Démons à tête d'iguane, murets les dragons infâmes, torture les scélérats, pas de repos, le trépas.
Vous preniez à la légère les ordres du très Saint-Père,
vous payez cher ma
de la peur.
Des cimes de rochers pointus, des chauves-souris cornues jettent dans un fleuve noir les pêcheurs aux yeux hagards.
Trop tard pour le purgatoire, il n'y a pas d'échappatoire, et jusqu'à la fin des temps ils goûteront au châtiment.
Sodomie, péché de chair, hystérie.
Le Créateur les condamne, point de salut pour vos âmes.
Offrir de la peur, c'est le moteur de l'histoire. Offrir de la peur, pour vendre de l'espoir. Offrir de la peur, c'est le moteur de l'histoire. Offrir de la peur.
Thank you.
la très sainte inquisition.
Pour transformer un saint homme en un suppôt de Sodome.
Dénonciation et procès, et tous ces biens sont spoliés.
Quelle délicieuse stratégie, la fabrique du discrédit.
Hey. Offrir de la peur, c'est le moteur de l'histoire. Offrir de la peur, pour vendre de l'espoir. Offrir de la peur, c'est le moteur de l'histoire. Offrir de la peur, pour vendre de l'espoir.
La chute des damnés, Dirk Bouts, c'est le monsieur qui a peint la chute des damnés, et c'est bien sûr Lénine Renault qui parle de ce tableau. Et moi, j'ai appris un truc, justement, en écoutant cette chanson, en cherchant, j'étais persuadé que c'était Jérôme Bosch qui avait peint ce tableau, et non, en fin de compte, c'est Dirk Bouts, et Jérôme Bosch s'est inspiré de ce monsieur pour que quelques dizaines d'années plus tard, refaire toutes les toiles qu'on connaît de Jérôme Bosch, où il y a toujours ces êtres machiavéliques là, qui se baladent. Quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes entre les deux. Chacun a sa personnalité quand même.
Oui.
Alors, c'est un tableau qui est d'ailleurs grouillant de créatures comme démoniaques, tu vois, où on représente les pêcheurs devant l'Éternel, par les pêcheurs de poissons.
Non, pas ça quand même, faut
pas exagérer. Mis dans une des grottes dans lesquelles on mettait le feu en présence d'animaux très inquiétants et carnivores.
Mais en plus, ce qu'ils disent dans la chanson, c'est qu'en fin de compte, ces tableaux qui étaient faits par des gens qui étaient dans les églises, donc c'est ces gens qui ne savaient pas lire et écrire, on leur montrait l'enfer, on leur faisait peur. Eh oui, il faut bien toujours faire peur aux gens pour qu'ils finissent par croire que s'ils font des bêtises, plus tard, ça va être encore pire.
Ils seront punis, bien sûr.
Voilà.
Aujourd'hui, je me sens barbouillé. J'ai les couleurs qui se mélangent comme une fée un peu abîmée qui n'aurait plus ses ailes d'ange. Je ne sais plus si j'aspire l'oxygène ou si c'est l'air qui passe à travers moi. Je n'en éprouve pourtant aucune gêne, mais de l'émoi. Je suis pris dans une toile de Léonore Fini où rien n'est défini à l'avance. Je suis pris dans une toile de Léonore Fini où malgré tout rien n'est dû à la chance. T'étais quand même une sacrée nana, souvent recluse et renfermée. Le travail était ton chez-toi, parfois secrète, oui, mais quand tu sortais, c'était autre chose. Tu les mettais tous à genoux, la reine de la métamorphose les rendait fous. Je suis pris dans une toile de Léonore Fini, où rien n'est défini à l'avance. Je suis pris dans une toile de Léonore Fini, où malgré tout, rien n'est dû à la chance.
être écrivaine et décoratrice. On ne comptait plus tes talents et ta beauté dévastatrice a fait plier les plus grands. J'aurais aimé te rencontrer, ne serait-ce que l'espace d'une nuit, pour le matin pouvoir te murmurer bonjour, Léonore Fini.
On continue notre visite du petit musée de Lénine Renault, c'est le titre du CD. Lénine Renault, c'est le groupe qui chante des chansons sur des tableaux. Là, encore une fois, il parle uniquement d'un peintre, en l'occurrence une peintre, puisqu'il s'agit de Éléonore Fini, dont le nom de peinture était Léonore Fini, qui a vécu de 1908 à 1996. C'est très récent, ça, son décès.
Alors non seulement elle peignait, mais elle faisait aussi des illustrations, tu sais. Elle a illustré une cinquantaine d'ouvrages, dont les œuvres de Charles Baudelaire, entre autres,
oui.
De Paul Verlaine aussi,
et Garpeau.
De Gérard de Nerval, oui. Mm. Apparemment, elle créait aussi des décors et des costumes,
oui.
Pour l'opéra et le théâtre.
Et puis des masques.
Elle avait beaucoup de talent, cette
fois-ci. Oui, beaucoup, beaucoup. Et avec Léonore Fini, ben, se termine notre petite visite.
C'est avec fini. Léonore Fini, c'est fini.
Voilà, enfin, c'est fini. Pour aujourd'hui,
oui, ah, bien
sûr. C'est fini notre petite visite au musée de Léonore Fini, de Lénine Renault,
bien sûr. De Lénine Renault, oui,
j'espère que la découverte de ce groupe t'a plu, à nos auditeurs aussi. C'est sympa, hein, ce qu'ils font.
Oui, oui, ça change un petit peu, c'est un petit peu différent totalement.
Cela dit, cher monsieur, c'est pas parce que c'est une émission spéciale que vous allez couper à votre petite minute à vous.
J'ai trouvé une petite phrase qui est amusante. Il dit « La peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante. »
Ah oui, c'est pas mal.
Je sais pas qui a dit ça, mais c'est amusant, oui.
C'est pas moi.
Il y a aussi un truc qui m'a amusé, il dit « Le jour où il y aura un diplôme de peinture, il y aura des peintres, mais il n'y aura plus d'artistes. »
C'est un peu vrai aussi.
C'est un peu vrai, moi je le pense aussi, oui. Parce que comme je disais, il faut laisser la liberté d'expression. Si tout est trop codifié, ben c'est fini, quoi. Ça ne sert plus à rien. Je trouvais un petit truc aussi, puisqu'on approche tout près des réveillons de
janvier. Oui, oui, oui.
Ça en approche. Alors, on a parlé de la souffrance des animaux tout à l'heure,
oui.
Des combats de coqs, etc. Et un gars a dit, par solidarité avec les oies, qu'on gave, tu sais,
oui, bien
par
sûr.
Solidarité avec les oies, cette année, je mangerai mon foie gras avec un entonnoir.
Eh bien, mesdames et messieurs, là-dessus, nous vous souhaitons le bonsoir. Enfin, je vous souhaite le bonsoir. Et Jean-Yves, je te souhaite bien également bonsoir.
Eh bien, moi, je vais dire bonsoir, bien sûr, à nos auditeurs et à mon ami Yves.
C'est gentil.
Avec lequel on travaille depuis des années.
Oh là là.
Et merci de nous avoir écoutés.